Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
Tendez bien l'oreille à cette histoire, parce que c'est l'affaire criminelle la plus retentissante qu'ait connue l'Italie ces dernières décennies. Et elle est toute récente, 2002. Et elle se déroule dans un petit village de montagne pas très loin de la frontière française, dans le Val d'Aoste, le village de Cogne. Nous sommes le 30 janvier 2002, en pleine montagne et en plein hiver, donc. L'affaire commence par un coup de fil au service d'urgence de la vallée. Au téléphone, une femme affolée.
Allô ? Allô ? Mon fils a vomi du sang ! Venez vite ! Venez vite !
Restez calme, madame. J'ai besoin que vous me donniez votre adresse.
J'habite à Cogne. Je vous en prie, vite, vite, il est couvert de sang, il a vomi du sang, il respire plus.
Nous arrivons, madame. Restez joignable à ce numéro au cas où on ne vous trouverait pas.
L'appel vient du chalet d'un jeune couple, Stefano Lorenzi et Anna Maria Franzoni. Lui est géomètre, elle est mère au foyer. Et elle s'occupe de leurs deux enfants, David, 7 ans, et Samuele, 3 ans. Et c'est pour Samuele qu'elle vient d'appeler les urgences. L'hélicoptère des secours se pose enfin près du chalet. Et un médecin et des secouristes bondissent hors de l'appareil. On leur avait parlé d'un enfant qui vomit du sang. La scène qu'ils découvrent quand ils entrent dans la chambre est plutôt proche du film d'horreur. Il y a du sang partout. Sur le lit, sur le mur, sur les rideaux et même au plafond. Et l'enfant, le petit Samuele, il est vivant. Mais ça n'est pas un problème de vomissement, ah ça non. C'est sûr, il a des plaies tellement profondes sur le crâne qu'on peut voir sa cervelle. Et d'ailleurs de la cervelle, il y en a aussi sur le mur et sur le sol. Voilà pourquoi les secouristes préviennent immédiatement les carabiniers, les gendarmes italiens. Et eux, sans attendre, emmènent l'enfant vers l'hôpital d'Aoste. À 9h55, Samuele Lorenzi, 3 ans, est déclaré mort dans l'hélicoptère qui le transporte vers l'hôpital. Et entre-temps, on a prévenu Stefano, le père, qui était parti au travail. Il vient de revenir chez lui quand les carabiniers débarquent à 10h. Ils ne sont pas prêts d'oublier la scène qu'ils découvrent quand ils pénètrent dans le chalet. Le père Stefano est effondré sur le sol et la mère, Anna Maria, est penchée dessus et elle l'implore avec force démonstrativité. « Tu me feras un enfant, hein ? Tu me promets que tu me feras un autre enfant ?» Étrange réaction, se disent les carabiniers. Elle vient de perdre son fils de 3 ans et elle ne parle déjà que d'en faire un autre. Alors que s'est-il passé ? Le père dit qu'il est parti au travail à 7h30. Et la mère raconte qu'elle a préparé l'aîné David pour l'école. Qu'à ce moment-là, le petit dernier Samuel était debout, mais qu'elle l'a recouché. Juste avant d'amener David à l'arrêt de bus. Il était 8h15. Elle dit qu'elle a attendu que le bus arrive, vers 8h20, et qu'à 8h25 maximum, elle était de retour chez elle. Et là, je suis entré dans la chambre de Samuel. Il était sous les draps. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai fait des chatouilles, il n'a pas bougé. Alors j'ai tiré la couette, il était tout en sang, il saignait tellement. J'ai pas compris d'où venait le sang. Et c'est là qu'elle a appelé les secours, le 118. Et qu'elle est allée chercher une voisine, Ada. Elle est médecin, mais psychiatre. Elle a tenté d'arrêter l'hémorragie et elle a pensé que c'était peut-être une rupture d'anévrisme qui aurait fait exploser la boîte crânienne. Les policiers se disent qu'avoir les plaies sur le crâne, la piste de la boîte crânienne qui explose est assez fantaisiste. En tout cas, Voici le récit que font les parents. Enfin, surtout la mère, puisque le père n'était pas là. Si elle raconte la vérité, le petit Samuele a été agressé dans son lit pendant le laps de temps où elle était à l'arrêt de bus, soit moins de 10 minutes, par quelqu'un qui est entré sans effraction. Les carabiniers, bien sûr, balisent la scène de crime. Mais il est passé tellement de monde dans ce chalet depuis le crime, les secouristes, les parents, la voisine psychiatre, 13 personnes au total ont pataugé sur la scène de crime. Pour les empreintes, faudra repasser. Ils cherchent l'arme du crime, bien sûr. Et ils saisissent une grosse louche en métal et un cendrier taillé dans un bloc de quartz. Aucune fenêtre et aucune porte n'a été forcée. Et tout était fermé. Le lendemain, a lieu l'autopsie. Et mamma mia, le médecin légiste n'a jamais vu une telle boucherie. Le crâne de l'enfant est une passoire. 17 coups à la tête, dont 3 ont entraîné des fractures du crâne. Ce sont les coups mortels. Ah, il y a aussi des blessures aux mains. Il s'est défendu contre un agresseur. Ça paraît clair. Les funérailles du petit Samuele ont lieu le 9 février 2002 à l'église de Cogne. Devant une foule immense, des gens qui ont lu les journaux bien sûr, qui ont suivi le drame à la télévision et qui sont venus soutenir les parents. Le soir même, les images du petit cercueil blanc de Samuele sortant de l'église de Cogne sont dans tous les journaux télévisés et le lendemain à la une de toute la presse. Et dès le début, cette affaire passionne les Italiens. Eh bien, ils vont en avoir pour leur passion. Au début, les médias, et dans la foulée l'opinion, sont plutôt du côté de la mère, Anna Maria. Les gens sont touchés par l'histoire de cette femme qui a perdu un enfant et qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, portée par cette compassion nationale, Anna Maria donne beaucoup d'interviews. On la voit à la télé, on l'entend à la radio, on la lit dans les journaux. Elle a raison d'en profiter, parce que d'un coup, en février, le vent tourne. Sous sa photo à la une des journaux, on titre désormais « Il sospetto », la suspecte. Et on commence à envisager que la belle Anna Maria a massacré son fils de 3 ans. Et pourquoi? Parce qu'on a retrouvé ses pantoufles et son pyjama dans la chambre où Samuele a été tué. Et ils sont tachés de sang. Et il y a même du sang sous la semelle des chaussons. Pourquoi? Elle n'est pas allée à l'arrêt de bus en pantoufles en plein hiver. Alors pourquoi y a-t-il du sang sous la semelle? Le juge ordonne une reconstitution dans le chalet. Et voilà ce qui en ressort. Anna Maria portait bien ce matin-là, quand elle s'est levée, et le pyjama, et les pantoufles. Quand on regarde les projections de sang sur le pyjama, ça saute aux yeux. Ce sont des éclaboussures. Ce qui suggère que c'est le porteur du pyjama qui a frappé. Les experts présents à la reconstitution vont même plus loin. Les projections de sang indiquent que le porteur du pyjama était agenouillé sur le lit pendant qu'il frappait. Pour eux, c'est elle, pas de doute. Mais elle, elle a une autre explication. Évidemment qu'il y a des taches de sang. J'étais pas encore habillé, j'étais encore en pyjama quand j'ai découvert mon fils. Ce qui veut dire que vous avez accompagné David à l'arrêt de bus en pyjama. Eh bien oui, exactement. On questionne le chauffeur de bus. Il n'en a aucun souvenir. En revanche, la voisine, la psychiatre, Ada, elle se souvient très bien qu'elle n'était pas en pyjama et qu'elle était habillée. Elle se souvient même qu'elle portait des bottines noires. Dès lors, on en revient à la question. Pourquoi les chaussons sont-ils tachés de sang ? Mais il n'y a pas que ça qui intéresse le juge à l'occasion de cette reconstitution. Anna Maria dit qu'elle quitte le chalet pour l'arrêt de bus à 8h16 et qu'elle revient à 8h24, ce qui suggère que le crime a été commis dans ce laps de temps de 8 minutes. Elle est précise parce que, à cause du bus, elle dit qu'elle a passé son temps à regarder sa montre. D'où la question. Est-ce qu'en 8 minutes, on peut entrer dans la maison, enfiler le pyjama, tuer Samuele, retirer le pyjama et repartir? En 8 minutes, on fait des essais. C'est impossible. Ça ne tient pas. Le scénario d'Anna Maria ne tient pas. Mais pour l'instant, elle reste libre. Suspectum est libre. Au cas où elle est lucide quand même, elle enrôle un avocat vedette, Carlo Federico Grosso. Et surtout, elle va pleurnicher à la télévision. Et tant qu'à faire, elle choisit le plus grand talk show, l'émission de Maurizio Zuffi, Studio Aperto, où elle est accueillie en vedette avec tambour et trompette. Jolie brune, avec un carré long, une frange sur le front, elle porte un chemisier blanc et elle a deux petites boucles d'oreilles et un grain de beauté sur la joue. Elle est charmante. Et dès les premières images, de grosses larmes de crocodile coulent sur ses joues. Et l'animateur est tout entier dans la compassion. Anna Maria Franzoni, vous êtes sous les projecteurs depuis 40 jours et au lieu d'être considérée comme la victime que vous êtes, on a l'impression que vous ne devez que vous justifier. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce rôle? Ça fait 40 jours que ma vie est finie. Samuel était un enfant très doux, très affectueux. Il avait besoin de beaucoup de câlins. Il me paraît impossible de vivre sans lui. Des milliers d'Italiens qui regardent l'émission ce soir-là vous diront la même chose que moi. Elle est touchante. Elle a le visage d'une mère douce et aimante. Elle est dévastée par la souffrance. Elle a l'air sincère. Voilà. Elle est convaincante. Et jusqu'au bout, quand elle termine par ces mots. Le problème, c'est que l'assassin est en liberté. Et que c'est pas moi. Et ils sont en train de se tromper. Je suis innocente. Elle est magnifique. Magnifique. La procureure, en revanche, n'a pas l'air sensible à son charme. 5 jours après son passage à la télé, elle est inculpée pour homicide volontaire aggravé par ascendant et écrouée au centre pénitentiaire de Turin. La procureure s'enquiert de ses antécédents psychiatriques. Souffre-t-elle d'une dépression ? Elle répond que non. Et elle reste accrochée à sa version. Elle est innocente. Mais il y a mieux que ça. Elle accuse l'une de ses voisines. Moi, je vais vous dire qui a fait ça. C'est l'épicière. C'est Madame Piratone. Tout le monde sait qu'elle n'a plus d'enfant, que son bébé est mort il y a quelques mois. Elle était chez nous la veille. Elle a vu notre bonheur. Elle n'a pas supporté. La jalousie. C'est tout. Et dans la foulée, elle en accuse une autre. Encore une de ses amies. La marchande de fruits et légumes, Daniela Ferrode, elle dit qu'elle a une double personnalité pathologique. Et d'ailleurs, un jour, elle dit à la procureure « Ce sera n'importe quel habitant de Cogne, mais ça sera pas moi !» Du coup, autant vous dire qu'à Cogne, ça n'est pas la grosse ambiance. Les accusations d'Anna Maria sèment la zizanie dans tout le village. Et la présence quasi permanente de journalistes et de curieux agace tout le monde. Pour Stefano, le mari d'Anna Maria, c'est devenu invivable. Il déménage et il va s'installer avec son fils David à 300 kilomètres. Et voilà qu'Anna Maria, qui a changé d'avocat et choisi un ancien ministre de Berlusconi, maître Taormine, modifie son témoignage. sur un point capital. Elle avait toujours dit que quand elle accompagne David à l'arrêt de bus, elle ferme la porte à clé. Eh bien non. Finalement, elle a laissé la porte ouverte. Et ça change tout. Ça justifie qu'il n'y ait pas de traces d'effraction. Et ça rend l'intrusion d'un tueur extérieur plus facile et plus crédible. Enfin, si on veut bien croire à sa nouvelle version. En revanche, oublions les voisines. À l'heure du crime, elles ont toutes les deux des alibis. Anna Maria peut remballer ses accusations. Mais qu'importe, son nouvel avocat annonce
« Je connais le nom du meurtrier et je le révélerai bientôt ».
En attendant, Maître Taormine recrute un nouvel expert, à qui il fait analyser les projections de sang sur le pyjama. Et sa conclusion est radicalement différente de celle des experts du procureur. Car lui dit que les traces de sang indiquent que le pyjama était plié sur le lit au moment du meurtre. Ce qui, entre nous, ne colle pas non plus avec le récit d'Anna Maria qui dit, je vous le rappelle, qu'elle est allée à l'arrêt de bus en pyjama. Mais bon, ça suffit à introduire un doute et après 18 jours de prison, Anna Maria est libérée. Et à partir de ce moment-là, avec son avocat, elle va mener une campagne médiatique effrénée. Et comme son nouvel avocat est un ancien du gouvernement Berlusconi, le populisme ne lui fait pas peur. À longueur d'interview, il accuse les juges de maltraiter la mère de la victime d'un meurtre. Et il fait appel au bon sens populaire. Une mère ne peut pas faire ça à son enfant, voyons. Les médias italiens adorent. Et ils réclament des interviews d'Anna Maria. Et elle accepte toutes les invitations. Et notamment celle de Maurizio Costanzo, qui présente le talk show le plus populaire d'Italie. Et ce soir-là, il réunit plus de 5 millions de téléspectateurs. Pour vous donner une idée du genre de talk show, disons que c'est une sorte de « touche pas mon poste » avec dans le rôle de Baba, Maurizio Costanzo, dans une veste rouge du meilleur goût. Et comme toujours dans ce genre de talk show, on mélange tout. Le tragique et le léger. L'interview d'Anna Maria est entrecoupée de chansons de variété. On parle du meurtre de Samuele dans une ambiance de joyeuse gaudriole. Ce qui n'empêche pas la belle Anna Maria de pleurnicher, comme à son habitude. Et surtout, à la fin de l'interview, elle annonce qu'elle est enceinte. Elle attend un bébé et c'est un excellent coup. Ça la renvoie à son statut de maman. Enceinte, elle est plus maternelle que jamais. Et le lendemain, l'annonce de sa grossesse fait la une de toute la presse. Cette femme-là est un génie de la communication. Et ce cirque médiatique dure pendant des mois, durant lesquels on les voit, elle et son avocat, squatter les plateaux de télévision et les unes de magazines pour instiller dans l'opinion une idée, une seule, elle est innocente. Et peu importe que dans le dossier tout l'accuse, l'idée fait son chemin. Et le point d'orgue de ce plan com, parce que ça n'est rien d'autre, c'est bien sûr la naissance en janvier 2003, un an presque jour pour jour après la mort de Samuel, du petit bébé, Joelle. Elle n'aura pas ménagé ses efforts pour arriver au procès avec la carte de l'opinion dans son jeu. Le procès d'Anna Maria Franzoni pour le meurtre de son fils Samuel s'ouvre le 19 juillet 2004 devant le tribunal d'Aoste. Il a lieu à huis clos et il ne dure qu'une seule journée. Et du côté de la défense, tout est en place. Maître Taormina, qu'attendez-vous de ce procès ? Écoutez, je suis naturellement très confiant. Il n'y a rien dans ce dossier qui accuse ma cliente. À quelle condamnation est-ce que vous vous attendez ? Oh, on va vers une relaxe, évidemment. Personne dans ce tribunal ne pourra démontrer que ma cliente est coupable, car elle est la vraie victime. Mais les choses ne vont pas se dérouler exactement comme l'avait prévu Maître Taormine. Car l'accusation produit un élément accablant. Il s'agit d'un appel téléphonique de Stefano, le mari d'Anna Maria, à 5h50 du matin le jour du crime. Quand il s'est levé, pour partir au travail à 7h30, il a appelé les urgences médicales et l'appel a été enregistré.
Allô ? Allô ? Allô, ma femme ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle n'arrive plus à respirer, qu'elle ne sent plus ses bras, ses jambes. Tous ses membres sont engourdis.
À l'autre bout du fil, on entend très distinctement la réponse du régulateur des urgences. Appelez le médecin de garde ! Ce qu'il a fait, le matin du crime, un médecin est donc venu au chevet d'Anna Maria. Il l'a examinée et il a diagnostiqué un trouble anxieux, une crise d'angoisse, et il a voulu lui prescrire des anxiolytiques. Mais elle a refusé, et elle lui a dit qu'elle ne les prendrait pas, il n'a donc pas fait d'ordonnance. Et cela, 2 heures avant l'assassinat de Samuele. Elle était donc dans une grande instabilité psychologique au moment du meurtre. Et pour l'accusation, c'est clair. Elle a pété les plombs. Et l'hypothèse du procureur est la suivante. Elle fait une crise d'angoisse, le gamin se met à pleurer, ça l'exaspère, elle le frappe. Ce qui ne joue pas en sa faveur non plus, c'est qu'elle a passé tout le début de l'enquête à accuser des innocents, ses voisines. L'un dans l'autre, c'est donc mal parti pour Anna Maria. Et au moment du verdict, elle a perdu la partie. Anna Maria Franzoni est reconnue coupable et elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Et aussitôt, Maître Taormine a fait appel. Et dans la perspective du nouveau procès, Anna Maria et son nouvel avocat décident de reprendre toute l'enquête à zéro. Maître Taormina envoie à ses frais de nouveaux experts dans le chalet. Et 2 ans après, ces experts privés relèvent une empreinte digitale sur la porte du garage. Qui pour l'avocat, bien sûr, est forcément l'empreinte de l'assassin. Et au même moment, Anna Maria et son mari Stefano se mettent à accuser un autre voisin, Ulysse Guichardaz. Ils disent que c'est un maniaque sexuel, que depuis sa fenêtre, il épie Anna Maria depuis des années et qu'il leur fait peur. Maître Taormina déclare « C'est simple, hein. Il n'a pas pu assouvir son fantasme avec Anna Maria, il s'est vengé sur son fils. » Et quelque temps plus tard, il pousse le bouchon encore plus loin. « C'est Ulysse, il est entré dans le chalet pour violer Anna Maria. C'est ça la vérité. Et comme elle n'était pas là, il s'est vengé sur son fils. » Heureusement pour lui, cet Ulysse a un alibi solide. Il ne pouvait pas être à Cogné le matin du drame. Impossible. Il est donc disculpé. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'Anna Maria Franzoni sort un livre, La Vérité, qui raconte l'histoire d'une bonne mère de famille catholique et aimant ses enfants, vivant au milieu de voisins jaloux et mal intentionnés. Le procès en appel est proche. Et voilà qu'une émission de télé demande aux téléspectateurs de voter. Si vous pensez qu'Anna Maria est coupable, tapez 1. Si vous pensez qu'Anna Maria est innocente, tapez 2. Toujours classe, la télé italienne. Quoi qu'il en soit, les votants la donnent coupable à 79%. Le procès en appel débute en avril 2007 à Turin. Et ça démarre très mal pour la défense. Car Maître Taormina se retrouve accusé d'avoir fabriqué de fausses preuves. L'empreinte digitale retrouvée tardivement serait celle d'un photographe qui travaille pour lui. Misérable manœuvre. Quant à Anna Maria, elle est beaucoup moins triomphante que sur les plateaux télé. Anna Maria Franzoni, pourquoi est-ce que vous avez à de multiples reprises voulu faire accuser vos voisines ? Et vos amis ? Ah, mais je ne voulais pas les accuser. J'étais dans un état de choc. Je savais pas ce que je faisais. Je n'avais personne d'autre à qui penser. Mettez-vous dans ma situation de mère. Pour compliquer les choses, il y a de l'eau dans le gaz entre Anna Maria et son avocat, à tel point qu'elle le vire en plein procès. Maître Taormina est alors remplacé au pied levé par une femme commise d'office, Paola Savio. Puis on fait venir à la barre des psychiatres. Pendant toute l'enquête, elle a refusé de les rencontrer, qu'importe. Ils ont travaillé sur la base des interviews télévisées de l'accusé. Et notamment sur un enregistrement, l'interview est terminée, la caméra tourne toujours et elle dit à son intervieweur « Ça va? J'ai pas trop pleuré ?» Le verdict tombe le 27 avril 2007 et Anna Maria Franzoni est condamnée à 16 ans de réclusion criminelle. Presque moitié moins qu'au premier procès, ce qui n'est pas mal. Elle décide néanmoins de se pourvoir en cassation et dans l'intervalle, elle est laissée en liberté. Mais un mois plus tard, la Cour de cassation confirme le verdict. Et cette fois, elle ne peut plus reculer. Anna Maria Franzoni est incarcérée à la prison de Bologne. Elle est condamnée à 16 ans. Elle sortira au bout de 7 ans, en 2014, pour bonne conduite.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.